et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans notre étude du catéchisme du Concile de Trente, nous en sommes donc à l'étude du Paternoster. Et en ce premier dimanche du mois d'octobre, permettez que nous fassions une petite parenthèse, sans quitter la prière. Nous parlerons, si vous le voulez bien, de l'Ave Maria, pour bien commencer notre mois du rosaire, puisque lorsque nous disons le chapelet, nous récitons le Notre Père et le Je vous salue Marie, qui sont les deux plus belles prières que nous possédions. Alors disons quelques mots ce matin de l'Ave Maria, pour bien profiter de la récitation de cette prière. Nous la disons 150 fois dans chacun de nos rosaires, c'est pas rien, il faut essayer de bien la dire. Pour nous aider dans ce petit commentaire de l'Ave Maria, il y a un très beau texte, c'est le commentaire qu'en a fait saint Thomas d'Aquin. C'était au printemps 1273, donc un an avant sa mort, à Naples, alors que saint Thomas était vraiment dans toute la maturité intellectuelle et spirituelle. Il était presque à la mort, donc il était vraiment dans sa pleine maturité, et il a été chargé de la prédication au peuple depuis septembre jusqu'à Pâques. Et cela nous a valu 69 sermons qui ont été sténographiés par son secrétaire, Réginald de Piperneau. Et parmi ces sermons, il y en a un sur l'Ave Maria, un commentaire de l'Ave Maria. Il y a aussi le Credo, le Notre Père, enfin tous ces sermons sont connus. Alors dans ce commentaire de l'Ave Maria, saint Thomas prend pour point de départ ce fait extraordinaire quand on y réfléchit. Il admire qu'un ange salue une créature. Effectivement, c'est un renversement de l'ordre naturel. Dans l'Ancien Testament, l'apparition d'un ange était considérée comme une très grande grâce. Les anges étaient objets d'une révérence extrême de la part des hommes. Or ici, c'est l'ange qui s'abaisse et qui salue. C'est un véritable renversement des rapports ordinaire, des rapports auxquels on s'attendrait. Et de suite, ça situe les choses dans leur juste proportion. La Vierge Marie est reine des anges, et les anges la vénèrent. Et cette salutation insolite laisse entendre que nous sommes au seuil d'un mystère très profond. Et de fait, ce mystère, c'est l'incarnation. Vous savez qu'au cours de l'Annonciation, notre Seigneur a été conçu dans le sein de la Vierge Marie. Il s'est incarné. Voilà ce mystère que l'ange vient annoncer, et c'est la raison pour laquelle il s'incline profondément devant la Vierge Marie et la salue par ces mots que nous connaissons bien pour les réciter chaque jour d'innombrables fois, Ave Maria gratia plena. Saint Thomas ensuite développe les trois premières phrases de l'Ave Maria. C'est surtout sur ces trois phrases que porte son commentaire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Donc attardons-nous quelques instants sur ces quelques paroles pour bien en comprendre toute la profondeur. Tout d'abord, je vous salue Marie, pleine de grâce. Dans ces mots, par ces mots, Notre-Dame est considérée en elle-même. C'est le mystère de Marie que nous contemplons dans ces mots. Tout simple, mais pourtant extrêmement profond. Et saint Thomas explique que Notre-Dame est pleine de grâce de trois manières. Elle est d'abord pleine de grâce dans son âme. Et il est beau, il est tout à fait profitable de méditer l'âme de Marie, tout comme il est profitable de méditer l'âme de notre Seigneur. C'est une chose auquel on ne pense pas assez. On médite sur les actes de notre Seigneur, on cherche à imiter ses vertus, mais on ne pense pas que le trésor se trouve d'abord dans son âme. Et de la même manière pour Notre-Dame. Notre-Dame donc est pleine de grâce dans son âme, parce qu'elle a été exemptée du péché originel. Nous le savons bien, c'est le privilège de l'Immaculée Conception. Et même le plus grand saint doit confesser, à la suite de saint Jean, si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Eh bien, la Vierge Marie, elle pouvait le dire, elle était sans péché. Ça n'est pas simplement un privilège négatif que son Immaculée Conception, nous le savons bien. Donc Notre-Dame est pleine de grâce dans son âme parce qu'elle est exempte du péché originel, mais aussi parce que son âme est remplie de toutes les vertus. C'est une plénitude. Toutes les vertus sont là dans cette âme, tous les dons du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il est vraiment utile de méditer ces choses. Au passage, remarquez la richesse des mots. Les mots, quand on les pèse, quand on cherche à bien les comprendre, surtout les mots de la Sainte Écriture, sont d'une richesse tout à fait extraordinaire. Le mot grec par lequel il est dit de Notre-Dame qu'elle est pleine de grâce, le mot par lequel l'ange la salue, pleine de grâce, c'est un mot unique en fait. Dans le français, on est obligé de mettre deux mots, dans le latin aussi, plena gratia, dans le grec, il y a un seul mot. Et ce mot, c'est un participe passif, pour montrer que cette grâce, elle est reçue. Notre-Dame a reçu cette grâce de Dieu, ce n'est pas elle-même qui s'est donnée à elle-même cette grâce, évidemment. Mais en même temps, ce petit mot, ce passif, c'est un parfait. Alors je m'excuse de ces considérations grammaticales, mais ça n'est pas indifférent. C'est le temps qui exprime le résultat d'une action passée. Pour dire que c'est un état, Notre-Dame est pleine de grâce, ce n'est pas simplement quelque chose de passager, et puis après c'est fini. C'est un état qui perdure, qui demeure, elle est et elle sera toujours pleine de grâce. Et c'est la raison pour laquelle le latin a ajouté « plena » pour bien insister, pour nous montrer que c'est une plénitude. Et une plénitude qui ne cessera pas et qui ne cesse pas, et qui même pendant la vie de Notre-Dame n'a cessé de croître. Notre-Dame a cru, a grandi en charité tout au cours de sa vie terrestre jusqu'au moment de son Assomption. Cette plénitude de grâce, elle n'est pas seulement dans l'âme de la Vierge Marie. Saint Thomas dit encore, elle est dans son corps. Il y a un rejaillissement de cette grâce de son âme sur son corps. Et la raison, on la comprend bien, elle devait être le tabernacle dans lequel notre Seigneur, le Fils de Dieu, allait s'incarner. Il fallait donc que le corps de Marie lui-même fût parfaitement indemne de toute souillure et parfaitement saint. Il faut penser que le corps de notre Seigneur, sa sainte humanité, comme on dit, là encore les mots sont bien choisis, ils expriment bien la réalité, la sainte humanité de Jésus lui vient de Marie. Il fallait donc que la source soit une source pure, parfaite. Et quand saint Paul nous dit dans ses épîtres à plusieurs reprises, vous êtes le temple du Saint-Esprit, ce qui est une très profonde vérité. Quand on pense à cela, c'est un encouragement à ne pas commettre de péché. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans notre âme comme il habite au tabernacle, d'une certaine manière, analogiquement. Eh bien, c'est surtout vrai de la Vierge Marie. Elle est le temple du Saint-Esprit en toute rigueur de terme, puisque notre Seigneur Jésus-Christ se trouve dans son sein par l'opération du Saint-Esprit. Et puis enfin, saint Thomas explique que la plénitude de grâce de Notre-Dame se trouve dans son âme, qu'elle rejaillit dans son corps et qu'elle rejaillit aussi, puisqu'elle est surabondante, sur toute l'humanité. L'humanité toute entière bénéficie de la grâce qui se trouve dans l'âme de la Vierge Marie. Et c'est ce qu'on veut dire quand on dit qu'elle est médiatrice de toute grâce. Par exemple, on explique des fondateurs d'ordre, les saints fondateurs d'ordre, qu'ils communiquent à tous leurs enfants, au fil des âges, des siècles, la grâce qui est la leur, la grâce capitale, la grâce du chef qui est la leur, ils la communiquent à leurs enfants. Ils sont, de ce point de vue-là, des pères, ils ont une grâce de paternité. Eh bien, on peut dire d'une certaine manière qu'il en est un petit peu de même pour la Vierge Marie à l'égard de toute l'humanité. Elle est la nouvelle Ève. Ève, ça signifie mère des vivants. Elle est la mère des vrais vivants, de ceux qui ont la vie divine, qui ont la grâce, des chrétiens spécialement. Elle est médiatrice de toute grâce, elle communique le salut à tous ses enfants, d'une manière subordonnée à notre Seigneur, évidemment, mais tout de même, hein, elle est vraiment la mère des vivants. Alors saint Thomas conclut ses premières considérations en disant que tout cela est comme contenu dans une des significations du nom de Marie. Vous savez qu'on donne au mot Marie plusieurs significations, plusieurs étymologies. Et l'une de ces étymologies est celle-ci. Marie, cela veut dire illuminée ou illuminatrice, illuminata ou illuminatrix. La Vierge Marie est lumineuse, elle est pleine de lumière et elle nous illumine. C'est une lumière qui nous éclaire. C'est ce que la liturgie veut dire quand elle emprunte au Cantique des Cantiques cette image par laquelle on compare la Vierge Marie à la lune. La lune reflète la lumière du soleil. Pulchra ut luna. Elle est belle comme la lune, pour dire justement qu'elle communique cette lumière, cette grâce qui habite dans son âme. Voici pour les premiers mots. Ensuite, nous disons dans le « Je vous salue Marie »« Dominus tecum ». Le Seigneur est avec vous. Ici, Notre-Dame est considérée dans ses rapports avec Dieu. C'est Notre-Dame par rapport à Dieu que nous méditons ici. Et il faut bien comprendre les mots, là encore. Quand nous disons « Dominus tecum », ça n'est pas un souhait, ni une promesse. Quand le prêtre à la messe se tourne vers les fidèles et qu'il dit « Dominus vobiscum » et que vous répondez « Et cum spiritu tuo », c'est un souhait. Nous souhaitons être vraiment unis à Dieu. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Il ne s'agit pas de dire que la Vierge soit avec que notre Seigneur soit avec la Vierge. Ce n'est pas non plus une promesse, comme si c'était un futur. C'est un fait réel, un fait présent. Le Seigneur est avec elle, c'est-à-dire qu'il y a une véritable intimité très profonde, très mystérieuse, unique, entre la Vierge Marie et Dieu, la Sainte Trinité. Elle est unie à Dieu et Dieu lui est uni comme aucune autre créature, hormis notre Seigneur, l'est. Elle est vraiment l'amie de Dieu, avec un grand A. Et alors, là aussi, il faut développer un petit peu, quand nous disons « le Seigneur est avec vous », le Seigneur désigne à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est d'abord le Père, puisque l'ange dit à la Vierge Marie « Celui qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu ». Elle est donc la mère de celui qui a Dieu pour Père. C'est dire toute l'intimité qui unit la Vierge Marie avec le Père céleste, Dieu le Père. Elle est vraiment unie au Père, et dans un lien qui est unique. C'est aussi le Fils, quand nous disons « le Seigneur est avec vous », c'est le Fils qui est désigné aussi par le Seigneur. Et là, on le comprend d'autant plus que précisément, elle est la mère du Fils de Dieu, la mère du Verbe de Dieu. Le Fils va s'incarner dans son sein. Donc, elle est vraiment très unie à lui. Il n'y a pas d'union plus forte que l'union d'une mère avec son Fils. Elle est la mère naturelle du Fils de Dieu. Et puis enfin, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur est avec vous, c'est-à-dire le Saint-Esprit est avec vous, parce qu'elle est l'épouse du Saint-Esprit, c'est par l'opération du Saint-Esprit qu'elle va concevoir dans son sein le Fils de Dieu. C'est ce que l'ange lui dit. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous couvrira de son ombre. Alors c'est vraiment une union tout à fait unique, extraordinaire et qui a besoin d'être méditée entre Notre-Dame et chacune des personnes de la Sainte Trinité. Les théologiens expriment cela en disant que la Vierge Marie est aux confins de la Trinité. Elle n'est pas une déesse, elle ne fait pas partie de la Sainte Trinité, elle n'est pas Dieu, mais elle est aux confins, à la limite, à la frontière. Il y a vraiment une proximité tout à fait unique, extraordinaire. Et dans la liturgie, il y a un vieil hymne, ou une vieille hymne, dans lequel il est dit, c'est la Vierge Marie qui est ainsi désignée, « Totius Trinitatis nobile triclinium ». Elle est le noble cénacle, le mot « triclinium » est difficile à traduire, le noble cénacle de toute la Trinité, de la Sainte Trinité tout entière. Plutôt que cénacle, il faut comprendre que le mot « triclinium », c'est un mot technique en fait, qui dans l'Antiquité désignait les lits de table. Vous savez que dans l'Antiquité, on mangeait non pas assis autour d'une table comme nous le faisons nous-mêmes, mais on mangeait allongé, enfin ou du moins accoudé sur des lits qui entouraient sur trois côtés la table qui était au centre, qui était une table basse. Trois côtés parce qu'il fallait laisser un côté lit pour le service. Trois côtés. Donc vous voyez, la Vierge Marie est comme le lit de table, ce lit sur lequel reposent les trois personnes de la Sainte Trinité. Cela montre, par une image qui est tout à fait gracieuse, qui est bien choisie, l'union très grande entre la Vierge Marie et chacune des personnes de la Sainte Trinité. Saint Thomas, qui généralement est assez sobre en confidence, ne peut s'empêcher ici de donner cette petite conclusion. Cette parole, Dominus Tecum, est le plus magnifique éloge qu'on puisse faire de la Vierge Marie. Vous voyez, pourtant Saint Thomas, il savait méditer. Il employait les mots à dessein, il ne parlait pas d'une manière purement gratuite, sans savoir ce qu'il disait. Pour qu'il se livre à une telle confidence, c'est l'indication qu'il y a là un mystère très profond, très grand. Et alors, cela est résumé en quelque sorte dans la deuxième interprétation du nom de Marie. Marie ne signifie pas simplement Illuminata ou Illuminatrix, mais aussi Domina. C'est une interprétation qui est connue. On dit d'ailleurs de la Vierge Marie qu'elle est Notre-Dame. Mais elle n'est pas seulement Notre-Dame, elle n'est pas seulement souveraine pour nous, elle l'est d'abord pour le bon Dieu. Elle est la Dame de la Sainte Trinité, la Dame du Seigneur. Vous voyez, et il y a quelque chose là aussi de très beau. Et c'est pour ça qu'elle est Notre-Dame d'ailleurs. Ça n'est qu'une conséquence, une participation à laquelle nous sommes conviés et qui est extraordinaire. Enfin, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Cette fois, la Vierge Marie, dans ces quelques mots, est considérée par rapport à nous, par rapport au genre humain. Ce sont tous les rapports entre la Vierge Marie et le genre humain qui sont comme résumés par ces quelques mots. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Là encore, faisons bien attention aux mots. Entre, inter, ça signifie au-dessus. La Vierge Marie n'est pas simplement bénie d'une bénédiction quelconque entre toutes les bénédictions que les femmes célèbres ou les femmes saintes peuvent recevoir ici-bas sur cette terre. Elle est au-dessus de toutes les femmes, même de toutes celles qui dans l'Ancien Testament sont ses figures, Esther, Judith, Sarah, Rebecca, etc. Elle est au-dessus de toutes par sa sainteté et aussi par ses privilèges, et spécialement et surtout par sa maternité divine. Là encore, on peut dire qu'elle est la nouvelle Ève, cette nouvelle Ève qui a rejeté la malédiction de la première Ève. Les anciens, d'ailleurs, jouaient sur le mot « Eva Ave ». L'Ave Maria, c'est comme la réparation du péché de la première Ève. Ave, efface, Eva. Il y avait une triple malédiction qui marquait le genre humain, qui frappait le genre humain depuis le péché originel. Il y avait d'abord une malédiction qui pèse spécialement sur les femmes. La femme conçoit et enfante dans la douleur. C'est ce que Dieu dit à la femme, à Ève, après le péché. Tu concevras et tu enfanteras dans la douleur. C'est la souffrance. Cette souffrance, elle est le lot de tous, pas seulement des femmes. Ici-bas, du fait du péché, nous sommes condamnés à souffrir. Eh bien, Notre-Dame, elle, a enfanté l'enfant Dieu sans douleur. Elle est la mère de Dieu. Et son enfantement s'est fait sans douleur. Elle n'a pas été frappée par cette malédiction. Donc c'est en cela qu'elle est bénie entre toutes les femmes. Et cette bénédiction qui est la sienne, elle va nous la faire partager. La douleur, la souffrance devient rédemptrice depuis la croix de Jésus. Ensuite, il y avait une deuxième malédiction, c'est celle qui pesait plutôt sur l'homme cette fois. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front et la terre ne donnera que des épines pour toi. C'est les soucis du monde, les sollicitudes. Là aussi, c'est une malédiction qui est générale. Tous, que nous soyons hommes ou femmes, nous en sommes plus ou moins victimes. Ici-bas, il y a beaucoup de tracas, de soucis, de sollicitudes. Notre-Dame n'a pas été marquée, n'a pas subi cette peine. Elle n'a pas été frappée par cette peine. Elle est restée libre à l'égard du monde. Bien sûr, elle a souffert. Bien sûr, elle a eu toutes les sollicitudes que le soin de la Sainte Famille demandait. Mais tout cela ne l'a pas empêché d'être occupé à Dieu seul. Et là encore, cette bénédiction qui est la sienne, elle va nous la faire partager depuis notre Seigneur, depuis Notre-Dame, depuis l'Évangile. La vie contemplative est possible et c'est comme un prélude à la vie du ciel. Nous pouvons dès ici-bas déjà préluder à cette vie du ciel qui sera une vie dans laquelle nous pourrons vaquer à Dieu et à Dieu seul. Et puis enfin, la troisième malédiction qui pesait à la fois sur l'homme et la femme, c'est que tous deux étaient condamnés à cause du péché à retourner en poussière. C'est la mort. La mort est la corruption du péché, c'est le salaire du péché. Mourir. Nous sommes condamnés à mourir. Eh bien, Notre-Dame a été exempte de cette malédiction. Par son assomption, elle est montée au ciel avec son corps sans connaître la corruption du tombeau. Elle est la première des ressuscités. Et cela aussi, c'est une bénédiction auquel nous devons participer. Sinon maintenant, au moins plus tard, nous aussi, lorsque nous serons morts, si nous sommes morts en état de grâce et que nous sommes parmi les élus, nous connaîtrons à la parousie la résurrection des corps et nous pourrons à nouveau jouir de tous les bienfaits de cette résurrection. Alors là encore, saint Thomas rattache toutes ces vérités à une des interprétations du nom de Marie. Marie, ça signifie aussi Stella Maris, étoile de la mer. C'est une troisième interprétation qui est très classique. Elle est l'étoile de la mer, l'étoile qui brille dans la nuit. Pour le marin qui est sur la mer, il voit ces étoiles qui brillent au-dessus de sa tête, et dans la tempête, l'étoile le guide pour qu'il puisse garder le bon chemin. L'étoile le mène jusqu'au port. Notre-Dame nous conduit, et comme l'étoile, de la même manière que les bergers ont été menés jusqu'à Jésus par une étoile, nous sommes menés par l'étoile qu'est la Vierge Marie jusqu'au ciel, si vraiment nous sommes fidèles, nous lui sommes fidèles. Donc il faut suivre cette étoile, comme dit saint Bernard d'une manière très, très belle, regarde l'étoile, hein, écoute la Vierge Marie, suis la Vierge Marie. Voilà, saint Thomas termine son commentaire en expliquant les mots suivants, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Pour ne pas prolonger, je ne rentre pas dans le détail, simplement un tout petit mot, le fruit de vos entrailles est béni, c'est Jésus. Jésus, le fruit de vos entrailles. La Vierge Marie est surtout bénie en Jésus. C'est Jésus qui est vraiment la bénédiction qu'elle nous apporte, qu'elle nous donne. Le fruit, c'est un mot qui désigne à la fois l'objet du désir et les œuvres. S'agissant d'Ève, de la première Ève, l'objet de son désir, quel était-il ? De devenir comme Dieu. C'est ce que lui propose le serpent. C'est l'orgueil de la vie. Vous serez comme des dieux. C'était un mensonge. Ensuite, le fruit qu'elle voit, que lui présente le serpent, était délectable à la vue, dit la Sainte Écriture. C'est la concupiscence des yeux. Et agréable à manger, c'est la concupiscence de la chair. Voilà ce que nous a légué Ève. Un fruit bien amer, c'est le péché. Nous avons perdu Dieu, alors que nous, le démon nous avait promis à Ève, au contraire, que nous deviendrions comme des dieux. Et puis, nous n'avons connu que l'amertume du péché. La Vierge Marie, au contraire, nous donne Jésus, le vrai Fils de Dieu. Cette fois, c'est Dieu lui-même. Et ce Dieu qui nous est donné nous divinise. Donc lui réalise parfaitement la promesse. Et ce Dieu que nous recevons dans la Sainte Eucharistie, il est effectivement délectable à la vue et agréable à manger. Vous voyez comme il y a un retournement des choses extraordinaire et comme cette bénédiction que nous recevons en la Vierge Marie efface complètement la malédiction d'Ève. Alors disons notre chapelet avec beaucoup de ferveur, essayons de méditer ce « Je vous salue Marie », de ne pas le dire machinalement simplement, mais de goûter vraiment toute la richesse de ces paroles et de demander à la Vierge Marie qu'elle-même nous apprenne à bien le prier. On peut dire que certainement son cœur se réjouit, s'émeut à chaque fois qu'elle entend ces paroles, qu'elle a entendues pour la première fois à Nazareth, par lequel l'aurore du salut lui était annoncée. Quand elle entend tous les chrétiens qui répètent avec dévotion ces mêmes paroles, on peut penser qu'elle en est certainement toute heureuse et toute émue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.